OK, on en est à notre 11e leçon sur la théologie systématique. Aujourd'hui, on va voir la doctrine de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, dans beaucoup de cercles qu'on dit chrétiens, il y a une emphase beaucoup trop grande sur cet attribut de Dieu-là, sans tenir compte de ce que les autres attributs disent dans l'ensemble des Écritures, et ça l'amène une certaine distorsion dans la théologie. Dans la doctrine, par exemple, une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu va amener vers l'arminianisme, peut amener aussi vers l'apostasie, vers le néo-évangélisme et vers l'écuménisme, parce que l'attribut de Dieu, on met trop une grande emphase dessus et ça l'amène à des erreurs graves. Ça va amener aussi une trop grande emphase sur l'attribut de l'amour de Dieu, des erreurs graves dans la méthode d'évangélisation, par exemple. Ce qu'on pourrait appeler l'évangélisation pop, où qu'on dit à tout le monde que Dieu vous aime, puis autrement dit, vous avez juste à dire « Jésus, viens dans mon cœur », puis après ça, tu peux mener ta vie comme tu veux, puis ça ne change rien. Et aussi, ça peut amener mauvaise méthode dans le sens que la manière d'évangéliser n'amènera pas une insistance assez grande sur le fait qu'il doit y avoir une transformation de la vie, une séparation du monde et aussi une séparation des frères désobéissants. Alors, toutes ces choses-là, quand on met trop l'emphase sur l'attribut de l'amour de Dieu, ça peut amener à toutes sortes d'erreurs, à la fois de doctrine et à la fois de pratique. Ça peut amener aussi des erreurs au point de vue de la vie chrétienne pratique. Trop de mondanité, des rétrogrades, qu'on utilise le terme rétrograde, ou changer la grâce de Dieu en dissolution, ou amener énormément de confusion en n'ayant pas une balance, un équilibre entre les différents attributs de Dieu. Et dans le fond, ça a l'air correct de parler de Dieu, de son amour. Oui, c'est correct, mais en autant que tu en parles avec équilibre et en tenant compte de ce que l'ensemble de la Bible dit. Il est donc impératif de changer cet état de choses en la corrigeant bibliquement. Premièrement, en remettant l'attribut de Dieu en perspective, c'est-à-dire en tenant compte de l'ensemble de ce que la Bible enseigne sur tous les attributs de Dieu, en respectant aussi les règles d'interprétation, la science de l'herméneutique, et aussi en respectant les contextes. C'est bien beau de sortir un verset hors de son contexte, dire « Dieu a dit... » Il parle de son amour, mais si on ne le fait pas en respectant certains critères, on risque de déraper. Aussi, en respectant un équilibre entre les attributs de Dieu qui sont révélés. C'est sûr qu'on insiste moins sur la justice de Dieu, on insiste moins sur la vérité, on insiste moins sur la sainteté de Dieu, et bien d'autres choses semblables, et en mettant trop d'emphase sur l'amour, on dérape. Bien sûr, l'attribut de l'amour de Dieu existe, mais elle doit exister dans la vérité de ce que le reste de la Bible enseigne sur le sujet. Autre chose qu'il faut faire avant de... En étudiant l'attribut de Dieu, c'est de garder à l'esprit constamment que l'amour humain n'a rien de comparable à l'amour divin. L'amour humain est toujours charnel et est rempli d'imperfections. Quant à celui de Dieu, il est non seulement infini, mais il est aussi parfait. 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Autre chose qu'on va regarder, le premier point qu'on va regarder concernant l'attribut de l'amour de Dieu, c'est les objets de l'amour de Dieu. Autrement dit, Dieu aime qui ou quoi? Ou... Donc, Dieu, la première chose qu'il aime, c'est lui-même. Dieu est infiniment parfait dans toute sa nature. Il trouve ses délices en lui-même. Alors, c'est sûr que dans la Trinité, il y a une diffusion de l'amour entre les trois personnes qui est constante. Et les Écritures nous confirment cela à beaucoup d'endroits. La première chose qu'on va regarder, c'est que le Père aime le Fils. Bien sûr, comme je vous ai déjà mentionné dans les leçons passées, quand je vous donne un ou deux versets pour prouver un point, c'est sûr que les Écritures, on pourrait aller en chercher beaucoup plus que ça. C'est simplement des points de repère et non pas donner, on ne donne pas une liste exhaustive de chacun des points qu'on pourrait amener pour prouver que le Père aime le Fils. On va regarder Jean 3, 35, qui nous dit « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Dans Jean 17, verset 24, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Autre point qu'on va regarder concernant encore l'amour qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité, c'est que le Père aime le Saint-Esprit. Dans Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » 1 Jean 5, 7, « Il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » Le Fils aime aussi le Père, dans le psaume 40, versets 7 et 8. Alors je dis, « Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Dans Jean 14, verset 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, « Levez-vous, partons d'ici. » Aussi, le Fils aime le Saint-Esprit. Galates 4, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père. » Et aussi dans Jean 14, verset 16 et 17, et aussi verset 26, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Autre personne, le Saint-Esprit aime le Père et le Fils. Bien sûr, on le sait, mais c'est comme les versets l'affirment et le confirment. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions que Dieu nous a donné par sa grâce. » Jean 16, versets 13 et 4. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, la première chose, le premier objet de l'amour de Dieu, c'est lui-même. Les trois personnes, une circulation intense d'amour entre les trois personnes. Deuxième objet de l'amour de Dieu, c'est sur sa création. On a le premier objet de sa création, ses anges élus. On a dans 1 Timothée 5, verset 21, « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. » Voyez-vous, ici, dans le verset, on nous parle des anges élus. Donc, s'ils ont été élus, c'est parce qu'ils ont été l'objet de l'amour de Dieu, contrairement à les autres. Matthieu 18, verset 10, « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, la création des anges élus. Ensuite, on peut passer à tous les hommes. Dans Actes 14, versets 16 et 17, « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. » Et il y a aussi Matthieu 5, verset 45, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Donc, il y a tous les hommes en général, ce qu'on appelle la grâce commune. Donc, Dieu manifeste quand même sa miséricorde, sa bonté envers l'ensemble des hommes de la terre. Cependant, il manifeste un amour particulier sur ses élus. Éphésiens 2, verset 4, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. » On parle ici, on qualifie le mot amour avec le mot grand, grand amour dont il nous a aimés. Éphésiens 1, verset 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Les bons versets pour nous dire que Dieu ne nous a pas créés pour nous laisser dans notre péché. Deuxième point que nous allons regarder, c'est des exemples de l'amour de Dieu. D'abord, l'exemple de l'amour de Dieu envers les élus en Christ. L'amour du Père, la réconciliation. Dans 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc l'amour du Père dans la réconciliation, l'amour du Père aussi dans le choix. Le fait que Dieu, de toute éternité, a déterminé un nombre précis et immuable d'hommes qui a choisi, à qui il a choisi d'accorder sa grâce en Christ. Donc, le fait d'être choisi, ça manifestait l'amour du Père envers nous. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu vous a choisi. Si on s'arrêterait à penser à ça, c'est vraiment une grâce extraordinaire d'avoir été choisi par le Seigneur. Autre facette de l'amour de Dieu, d'amour du Père envers nous, la sécurité de notre salut et la préservation dans la foi. Deutéronome 33, verset 3. « Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. » Et autre manifestation de l'amour de Dieu envers ses élus, les bénédictions. Et ici, c'est sûr que si on voudrait faire une liste exhaustive de toutes les bénédictions que Dieu nous a données, on passerait le reste de notre vie à en donner, parce que le Seigneur en a énormément, nous en a donné énormément, continue de nous en donner et continuera de nous en donner aussi jusqu'à notre décès et même après, parce que dans le ciel, on va continuer d'avoir des bénédictions. Éphésiens 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » L'adoption, comme on a déjà parlé, le fait que Dieu nous justifie, nous accorde le pardon par la personne de Christ, il n'était pas obligé de nous adopter puis de considérer qu'on était ses enfants. Alors, dans Jean, chapitre 3, verset 1, je me souviens d'un pasteur que j'ai connu qui pleurait quand il disait ce verset-là. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » C'est sûr que si on s'arrêterait à penser vraiment ce que le verset dit, il est fort probable qu'on pleurerait nous aussi. La régénération et la conversion, encore une autre facette. Jérémie 31, verset 3. « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je l'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Éphésiens 2, versets 4 et 5. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et le dernier, et non le moindre, la vie éternelle. C'est sûr que des fois, on est tellement habitué de se le répéter nous-mêmes que Dieu nous a donné la vie éternelle. Cependant, je pense qu'on aurait intérêt à s'arrêter parfois et à méditer sur ce que ce concept-là de vie éternelle implique. Alors, on va aller en Romains 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, on a vu différentes facettes de l'amour du Père à notre égard. Maintenant, on va regarder des facettes aussi de l'amour du Fils à notre égard. Et le rachat, c'est certainement pas la plus petite des bénédictions ou des formes d'amour que le Fils a eues envers nous. Titre 2, versets 12 à 14. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Alors, encore un verset qu'on aurait intérêt à s'arrêter et à méditer. Le rachat, ce que ça a coûté au Seigneur Jésus-Christ pour nous racheter, il n'y a aucun chrétien, aussi savant soit-il, qui peut vraiment comprendre dans sa profondeur ce que le Seigneur a fait pour nous, pour nous racheter de nos péchés. Et le don de sa vie, 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Autre caractéristique de l'amour, l'amour du Saint-Esprit. L'amour du Saint-Esprit se manifeste d'une multitude de façons. Je ne pense pas d'avoir fait une liste complète. Cependant, on peut en nommer assez pour être ébloui par ce que le Saint-Esprit fait pour nous, l'amour dont qu'il nous manifeste de différentes façons. Une des façons, c'est certainement la prière. Romains 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Il y a aussi la question que l'Esprit intercède pour nous, en priant pour nous, en complétant nos prières qui sont souvent incomplètes, qui sont souvent boiteuses. Autre chose qui est une manifestation du Saint-Esprit à notre égard, c'est la conviction de péché et la consolation. Jean 16, versets 7 et 8. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et il y a une multitude de versets aussi qui parlent que l'Esprit de Dieu nous console. Le témoignage, Romains 8, versets 15 et 16, et aussi versets 26 et 27. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Chose d'importante, c'est que c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient nous soutenir, nous convaincre, nous donner un témoignage que nous sommes des enfants de Dieu. L'assistance aussi, dans le verset, même chapitre, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voyez-vous, le Seigneur nous a donné le privilège de prier, mais le Seigneur était très conscient que notre prière était défectueuse, et c'est l'Esprit. C'est comme si on veut offrir un cadeau à quelqu'un, puis il est tout croche, puis il n'est pas emballé, et le Saint-Esprit l'emballe, il rend beau. Et il doit dire « Excuse-la, mais ils ne sont pas capables de faire mieux que ça. » Le réconfort. Éphésiens 1, versets 13 et 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous êtes crus et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Et on pourrait citer une multitude d'autres versets dans lesquels Dieu nous montre que le Saint-Esprit nous réconforte à maintes et maintes reprises dans nos vies et dans beaucoup d'occasions. L'instruction, Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Donc, c'est sûr que c'est un des ministères d'amour du Saint-Esprit que de nous instruire dans sa parole, et il nous instruit constamment. Et même si on étudie toute notre vie, on n'a jamais fini d'étudier la parole, et l'Esprit continue de nous faire découvrir des facettes nouvelles du salut et des choses bibliques. Et on est toujours, à quelque part, ébloui par ces choses. Un autre point, c'est l'équipement. Des fois, on ne s'arrête pas à penser à ça, mais c'est un point très important. Pour prendre un exemple humain, on ne confiera jamais à quelqu'un une tâche pour laquelle on sait qu'il n'est pas qualifié. Il n'a pas ce qu'il faut pour être capable de la faire. Et c'est important de se souvenir que Dieu ne nous confie jamais un ministère pour lequel il ne nous équipe pas. Si le Seigneur demande à quelqu'un, je ne sais pas moi, d'aller évangéliser dans un pays musulman, c'est que déjà le Seigneur a préparé la personne à avoir le courage pour faire le travail. Alors parfois, on voit les ministères comme étant quelque chose qu'on a nous-mêmes à se préparer. C'est sûr qu'on a une part dans la préparation. Mais Dieu, le Saint-Esprit, quand il appelle quelqu'un à quelque tâche que ce soit pour servir l'Église, il lui accorde toujours, il l'équipe. Un peu comme un militaire. Tu n'envoies pas un militaire à la guerre juste avec une paire de jeans et un chandail. Tu lui donnes une carabine, tu lui donnes des moyens de se protéger, tu lui donnes des armes, tu lui donnes toutes sortes de choses. Alors, c'est important de se souvenir de ces choses-là. Romains 12, versets 4 à 8. « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voyez-vous, c'est vraiment l'idée que quand Dieu nous place dans une assemblée, il nous accorde un don spirituel, un ou plusieurs, ça c'est selon ses propres décisions, et peu importe ce qu'il nous demande de faire, il nous demande de le faire avec, on voit les différents adjectifs qui sont là, l'attachement, l'exhortation, la libéralité, le zèle, la joie. Toutes ces choses-là se doivent être pratiquées dans cet esprit-là. Très important de réaliser cette chose-là sur le fait que quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, il nous équipe pour être capable de le faire. Troisième point qu'on va regarder, c'est les propriétés de l'amour de Dieu. La première propriété, c'est que l'amour de Dieu est libre. Le Seigneur aime selon son bon plaisir et selon sa volonté. Rien ne l'influence en dehors de sa souveraineté. Donc, ça exclut que Dieu avait prévu les bonnes œuvres de quelqu'un d'avance et que c'est à cause de ses œuvres prévues qu'il lui a accordé sa grâce. La grâce est complètement libre. Dieu ne l'a pas pris en considérant les choses qu'il a vues d'avance. 1 Jean 4, verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ici, dans la version Louis II, c'est expiatoire, mais dans le fond, ça devrait être traduit propitiatoire, parce qu'il y a une différence en termes de théologie entre l'expiation et la propitiation. La propitiation, c'est véritablement de détourner la colère de Dieu sur son Fils, autrement dit, de lui faire subir ce que nous aurions dû subir à notre place. C'est vraiment la propitiation. Alors, imaginez-vous la quantité d'amour qu'il y a là-dedans, de lui faire subir ce que nous aurions dû subir. C'est énorme, c'est insondable. C'est Éphésiens 2, versets 3 à 9. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Des choses importantes sont mentionnées dans ces passages-là. L'effet que quand il nous dit, dans le verset 5, « Il nous a ressuscités ensemble. » Alors, quelque part, quand le Christ est ressuscité, on était en lui. Et quand il est monté au ciel, ça dit qu'il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors qu'en lui, on est déjà en lui ressuscité et glorifié. Mais c'est quelque chose qui va venir. Mais c'est les temps des verbes sont importants. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Des versets à méditer. Versets à méditer avec une grande profondeur parce que c'est des versets qui nous aident à réaliser que le salut, c'est quelque chose de très solide, quelque chose de divin. Et que quand on comprend bien les versets, on arrête de dire que le salut se perd. Si on l'a véritablement eu, il ne se perd pas. Exode 33, verset 19. L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Autre caractéristique dont vraiment la première, c'était libre, l'amour libre. Deuxième, c'est l'amour éternel. Jean 17, versets 22 à 24. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Si on comprenait ce qu'il est en train de dire. Il dit, « Que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » C'est spécial ici de se faire dire que connaissent que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. De la même manière. C'est un amour d'une grande profondeur. Tite 1, versets 1 à 3. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. Deuxième caractéristique, libre, éternel. Troisième, immuable, inaltérable et invariable. Très important de réaliser ça aussi. L'amour de Dieu ne change pas, elle ne peut pas se modifier et elle est invariable. Dieu nous aime toujours d'une manière constante. Des fois, quand on s'arrête à ça, on se dit, ceux qui ont eu des enfants savent ce que je veux dire, c'est que les enfants font des bêtises, on les corrige. Et quand l'enfant est sous l'effet d'une correction, il s'imagine parfois que ses parents l'aiment moins. On le sait, nous autres, c'est que c'est pas vrai. Quand on aime véritablement nos enfants, qu'on vient de les corriger, on les aime pas moins. On les aime d'un amour, on les aime continuellement. Et c'est sûr que là, l'exemple que je prends, ça se compare, c'est un peu boiteux, pour comparer ça avec Dieu. Mais ça donne quand même une idée que Dieu, même s'il nous corrige, des fois on peut penser, ben Dieu nous aime moins. Donc, Dieu nous aime d'une manière immuable, inaltérable et invariable. Son amour envers ses élus n'augmente pas, ni ne diminue. Les élus en étaient l'objet même avant leur conversion. Ça aussi, c'est un point important à réaliser, à méditer dessus, parce que l'Éternel, il y a des versets qui nous disent que dès le ventre de notre mère, et même bien plus loin que ça, dans l'éternité, le Seigneur nous aimait déjà, et toutes les choses qui nous arrivaient avant notre conversion. Il nous aime en dépit de nos péchés, en dépit de nos chutes, en dépit de nos corrections, et en dépit de ses reproches. Psaume 89, versets 29 à 33. Je rendrai sa postérité éternelle et son trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leurs transgressions et par des coups leurs iniquités, mais je ne le lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Autre point, c'est que son amour dure à jamais. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi, je l'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Romains 8, verset 35 à 39. Verset qui est une très grande beauté aussi. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel beau passage. Seigneur, il dit, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune force qui va être capable de vous séparer de l'amour de Dieu. Ça, ce serait des versets à prendre par cœur, des super de beaux versets. Quelles sont les applications qu'on peut tirer d'un enseignement sur l'amour de Dieu? Je pense que le premier, ce serait de devoir bien connaître cet attribut-là, d'avoir une compréhension de l'amour de Dieu qui est scripturaire et équilibré. Ce qui est aujourd'hui dans beaucoup de milieux déséquilibrés qui amènent vers des erreurs graves. Aussi, je dirais, un enseignement scripturaire et équilibré. Non seulement il faut le comprendre, mais il faut l'enseigner aussi. Et aussi une prédication qui est scripturaire et équilibrée. Quand on prêche le salut, il ne faut pas uniquement, comme on pourrait dire en québécois, varger sur la tête des auditeurs que Dieu vous aime. Avant de leur dire que Dieu les aime, il faut qu'ils soient conscients de leurs péchés, il faut qu'ils soient conscients de la justice de Dieu, il faut qu'ils soient conscients de la sainteté de Dieu. Et là, quand on met toutes ces choses-là en perspective, là, ça change complètement la donne. Et on a une compréhension et on a une prédication qui est beaucoup plus conforme et équilibrée à la parole de Dieu. Alors, je pense que ce qu'on peut faire, suite à une leçon comme celle d'aujourd'hui, c'est demander à Dieu la grâce qu'il nous fasse comprendre, enseigner et prêcher dans une perspective scripturaire et équilibrée de cet attribut-là qui est un des siens. Deuxième chose, ça serait de méditer et d'apprécier ce merveilleux attribut qu'est son amour. Dieu l'a exercé envers ses anges élus. Il l'exerce envers tous les hommes par sa grâce commune. Ici, on pourrait développer, là. Il y a des pays où les hommes sont extrêmement méchants, en opposition avec Dieu, des ennemis de Dieu, et Dieu continue de leur envoyer toutes sortes de bonnes choses. Il y aurait énormément à dire juste là-dessus. Envers ses élus et envers toute sa création. Dieu dit que sa miséricorde se manifeste envers toute sa création. Alors, c'est sûr que l'attribut de Dieu, l'attribut de l'amour de Dieu, est un attribut énorme à méditer, surtout si on le fait dans une perspective scripturaire et équilibrée. Troisièmement, une autre application, on se doit d'utiliser cet attribut de Dieu-là pour calmer nos esprits agités, parce que Dieu nous aime fidèlement. Dieu nous aime intensément. Dieu nous aime invariablement. Dieu nous aime manifestement. Et Dieu nous aime éternellement. Il faut vraiment garder ça à l'esprit continuellement, parce que quand on a des chutes, qu'on a des problèmes, comme les Écritures disent, quand le ciel devient d'airain, qui nous semble qu'il n'y a plus aucune communication entre nous et Dieu, et là, on est porté à penser que Dieu nous a oubliés. Et quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, combien de fois ils ont cru que Dieu les avait oubliés? C'était pas Dieu qu'ils avaient oublié, c'est eux qui avaient oublié Dieu. C'est pas la même chose du tout. Quatrième application qu'on peut faire, je dirais, aimons-le en retour par une vie sainte, par une vie obéissante et par une vie consacrée. Comme les Écritures nous disent, Dieu nous a aimés en premier, mais après, Dieu nous met la barre haute et nous demande d'aimer comme son Père aime. Là, la barre est tellement haute que la vie ne suffira pas pour essayer de se rendre au bout. Mais il y a toujours place à progrès, toujours place à amélioration. Que l'Éternel soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.